Bonjour, c'est Marie-Pierre Haddad. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Un épisode très spécial, car j'ai décidé aujourd'hui de revenir sur une personnalité qui a vraiment marqué l'année 2022 et dont on parlera à coup sûr en 2023 et bien au-delà. Aujourd'hui, Focus s'intéresse à Sandrine Rousseau.
Quand est-ce qu'on regarde les jeunes en face et qu'on leur dit « Oui, nous avons pris la mesure du problème et nous assumons nos responsabilités, nous changeons notre mode de vie. » Dès que je parle de SUV, dès que je parle de grosses voitures, tout le monde me dit « Non, mais elle veut interdire les grosses voitures. » Ben oui, oui. On ne peut pas continuer à se déplacer seul dans une voiture qui nécessite des litres et des litres d'essence. Ce monde-là n'est plus possible.
C'était un extrait de son interview dans l'émission Le Grand Jury RTL Le Figaro LCI en septembre dernier. Depuis son retour chez les écologistes, Sandrine Rousseau ne laisse personne indifférent. Tout le monde a un avis sur celle qui vient bousculer les codes de la politique. Trop radicale pour ses détracteurs, combattante pour ses partisans, la députée Europe Écologie Les Verts de Paris s'est imposée dans le débat et ce n'est qu'un début. Bonjour Marie-Bénédicte Allaire.
Bonjour.
Tu es journaliste au service politique de RTL et tu suis sur le terrain la gauche et les écologistes. Bonjour Simon Persicot.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sciences politiques à Sciences Po Grenoble et vous êtes spécialisé sur l'essor de l'écologie politique. Marie-Bénédicte, je commence avec toi. Sandrine Rousseau, c'est la personnalité qui a débarqué d'un coup, d'un seul dans le paysage politique et qui a donné beaucoup de fil à retordre aux écologistes.
Oui, bah, elle a émergé en fait au moment de la primaire écologiste. C'était en fin 2021. Elle est à ce moment-là l'une des quatre candidates à la primaire et elle n'est pas du tout la favorite, pas du tout, du tout. Et puis, aux yeux et au nez et à la barbe de tout le monde, finalement, elle se hisse jusqu'au second tour. Elle écarte le maire de Grenoble, Éric Piolle, qui était qu'on donnait comme finaliste contre Yannick Jadot. Et elle frôle de peu, finalement, la qualification pour le second tour. Et c'est comme ça qu'elle s'impose dans le débat politique.
Quand on pense à Sandrine Rousseau, les premiers éléments qui me viennent en tête, c'est toutes les polémiques qu'elle a déclenchées. Il y a eu celle sur le barbecue, celle sur le délit de non-partage des tâches domestiques. Il y a aussi la théorie de l'homme déconstruit. Son avocate, Élodie Thuaillon-Ibon, expliquait au micro de Marion Calais sur RTL un peu le personnage Rousseau.
Si vous deviez utiliser un mot pour décrire Sandrine Rousseau, lequel vous choisiriez ?
Courageuse, sans aucune hésitation. Très courageuse, très déterminée. Puis bien sûr, très utile, très nécessaire à notre société, à notre époque.
Simon Persicot, le style Sandrine Rousseau, c'est quoi au juste ? C'est la lutte perpétuelle ?
Bon, c'est la volonté d'être assez franche, assez claire, parfois un peu radicale, de mettre les pieds dans le plat sur un certain nombre d'enjeux. Avec aussi la volonté de mettre en avant des questions qui étaient un peu parfois absentes ou en tout cas qui étaient en mode mineur, sur la question du féminisme et des violences sexuelles d'une part, sur la question des inégalités sociales et raciales aussi d'autre part, donc de remettre le débat sur ce terrain-là avec des propositions un peu iconoclastes, franches. Et c'est effectivement ce qui lui a permis d'avoir vraiment ce gain de notoriété qu'on a pu voir pendant la primaire. En gros, elle a suscité beaucoup d'attention dans le débat parce que ses positions tranchaient et elle n'avait pas peur de rentrer dans le débat de manière assez vive et assez franche. Après, pour retracer son histoire politique, elle apparaît pas non plus comme ça en 2021. Hein. Elle a été porte-parole du parti au début des années 2010. Elle a été même secrétaire adjointe, etc. Elle a eu des responsabilités. Elle a été candidate aussi à de nombreuses élections. Des élections législatives depuis 2012, des élections régionales, etc. C'est pas non plus une personnalité politique qui apparaît comme ça, comme par magie. Elle avait construit quand même une expérience politique. Elle était connue à l'intérieur des Verts, même si son niveau de notoriété, c'est clair, a pris un coup absolument phénoménal depuis la primaire.
Un peu une professionnelle de la politique. Marie-Bénédicte, hors micro, hors caméra, elle est comment en fait Sandrine Rousseau ? Est-ce qu'il y a une différence quand les micros sont allumés ?
Je dirais que sur la forme, elle est moins tonitruante que dans ses tweets ou sur les plateaux télé. Après, sur le fond, elle est elle est toujours dans le même registre et sur les mêmes sujets. Hein. Par exemple, il y a eu récemment le débat sur l'IVG pour inscrire l'IVG dans la Constitution. Et tout d'un coup, on la voit sortir de l'hémicycle et venir parler aux journalistes en leur disant « Non, mais vous avez remarqué là, ça fait un quart d'heure qu'il n'y a que des hommes qui parlent. C'est quand même pas normal. » Et hop, elle rentre dans l'hémicycle. Donc, elle suit quand même ses obsessions, même si, c'est pas forcément aussi tonitruant que sur les plateaux télé. Et ses collègues, d'ailleurs, du groupe écologiste disent qu'elle est très utile dans les débats. Par exemple, cet été, sur la loi pouvoir d'achat, ils ont salué le travail qu'elle avait mené. Et puis, elle a un côté culotté aussi. Moi, j'ai été frappée récemment, là, quand un inspecteur des finances a été assassiné. Elle a réussi ce tour de force. Elle a pris tout le monde de court, et notamment la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, au début des questions au gouvernement. Elle s'est levée, elle devait poser une question, elle a dit « Voilà, je voudrais qu'on rende hommage à cet inspecteur des finances, etc. Qu'on lui consacre une minute de silence. » Et Yael Braun-Pivet a été une demi-seconde un peu interloquée, et puis elle a dit « Oui, c'est ça, faisons une minute de silence. » Et tous les députés se sont levés pour faire une minute de silence. Et c'était pas mal joué de sa part, quoi.
Et ils ont tous suivi Sandrine Rousseau. On doit aussi évoquer l'affaire Bayou, avec une séquence très controversée qui est un peu le point de départ de cette polémique. C'était sur le plateau de l'émission C'est à vous sur France 5 en septembre dernier.
Moi, ce que je veux juste dire, c'est que au moment où j'ai reçu cette femme, elle était dans un état très très mal. D'ailleurs, elle a fait une tentative de suicide quelques semaines après, tellement elle allait mal. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie des questions qui vont venir sur la table. Et donc...
Éventuellement, Julien Bayou qui devra renoncer peut-être à ses fonctions au sein de votre parti.
On verra step by step.
Sandrine Rousseau a été très critiquée pour ses propos, même dans son propre camp, sur la méthode, sur le fait de parler de cette affaire dans les médias, hors cadre judiciaire, et alors qu'une enquête interne était en cours. Marie-Bénédicte, est-ce que tu penses que cette séquence lui a fait du tort politiquement ?
Je pense que oui, ça lui a fait du tort auprès de ses collègues députés, notamment. Moi, j'en avais interrogé une douzaine sur un groupe qui en compte un tout petit peu plus de 20, et j'en ai pas trouvé un pour dire qu'elle avait eu raison de faire ça de cette façon-là, même si sur le fond, etc., il pouvait soutenir la démarche et la comprendre.
Sur la forme,
il n'y en avait pas un qui était d'accord avec cette façon de faire. Chez les militants, je crois aussi que chez une partie des militants, en tout cas, ça n'a pas été forcément très très bien vécu, cette façon de faire comme ça, de poser sa bombe sur la table en toute fin d'émission. Et puis surtout, peut-être qu'elle est apparue comme... elle répondait à la demande de ses soutiens des associations féministes, et elle est apparue... Enfin, on a eu l'impression qu'elle répondait là-dessus parce qu'elle s'était engagée auprès d'elle à le faire. Mmh. Et elle est peut-être apparue comme un peu trop liée à ces associations-là.
Simon Persicot, comment est-ce que vous pouvez qualifier l'ADN politique de Sandrine Rousseau ? Est-ce qu'elle incarne un courant précis au sein d'Europe Écologie Les Verts ?
Alors, son ADN politique, c'est déjà celui des enjeux d'injustice systémique qu'elle déplore dans la société. Sur la place des femmes, encore une fois, je l'ai déjà dit, la question des violences sexistes et sexuelles, sur la question aussi du racisme, des dimensions un peu de comment d'ailleurs ces inégalités se combinent pour que faire en sorte que une femme d'origine immigrée, elle est encore plus victime de discrimination, etc. Ça, c'est un thème qu'elle porte fortement, qui est d'ailleurs aussi lié à un renouvellement générationnel. On sait que ce sont des enjeux qui mobilisent beaucoup, notamment dans les jeunes générations, et donc elle se veut la porte-parole de ces mouvements-là. Et la porte-parole à l'intérieur de l'écologie politique de ces mouvements-là, même si l'écologie politique s'est toujours située assez clairement sur les questions de migration, de sexisme. Mm-hmm. L'écologie politique, elle est féministe depuis le départ, mais pas en faisant un des enjeux constitutifs et centraux. Alors que elle, par exemple, Sandrine Rousseau, elle a écrit un ouvrage là récemment avec des journalistes qui s'appelle Androcène, pour dire que les causes du dérèglement écologique qu'on est en train de vivre sont en partie liées aux inégalités de genre. Donc ça, c'est déjà d'un point de vue idéologique, il y a vraiment cette dimension-là de mettre sur le devant de la scène la dimension du genre, des inégalités de genre et des inégalités de race.
Mais il y a un paradoxe un peu Sandrine Rousseau. Tout le monde parle d'elle, tout le monde débat des sujets qu'elle a réussi à imposer. Elle a fait un score assez conséquent à la primaire, on en a parlé. Mais mi-décembre, les militants Europe Écologie Les Verts ont désigné leur nouvelle secrétaire nationale. Et c'est Marine Tondelier, une écologiste, conseillère municipale à Hénin-Beaumont. Marie-Bénédicte, de ce que tu as analysé un peu de cette campagne interne, est-ce qu'on peut dire que Marine Tondelier, c'est un peu l'anti-Rousseau ?
Non, je le dirais pas comme ça. En fait, Marine Tondelier, elle est très implantée dans le parti. Elle faisait partie de la direction sortante et visiblement, ça faisait un moment qu'elle se préparait à en prendre la direction. Sandrine Rousseau, elle pouvait pas être candidate en tant que telle puisque les écologistes ont des règles de non-cumul assez drastiques. C'est-à-dire que si on est parlementaire, on peut pas en même temps être chef de parti. Hein, c'est d'ailleurs pour ça, au départ, que Julien Bayou a démissionné. Enfin, je dirais pas que c'est l'anti-Tondelier parce que elle a aussi effectivement, comme le disait Simon Persicaud tout à l'heure, elle a aussi était dans les instances dirigeantes d'Europe Écologie Les Verts. Elle en a même été porte-parole à un moment donné. Mais c'est vrai qu'à l'époque, elle n'avait pas émergé, elle n'était pas hyper connue. Après, je pense qu'effectivement, dans la façon de faire, il y en a une qui est plus, peut-être plus individualiste, Sandrine Rousseau, qui est plus individualiste, alors que en tant que chef de parti, Marine Tondelier, forcément par construction veut favoriser le rassemblement et le collectif.
Simon Persicaud, est-ce qu'on peut dire que Sandrine Rousseau a été désavouée par la base, selon vous ?
En réalité, à la primaire, vous avez vraiment un corps électoral, donc les gens qui ont voté à la primaire, qui est vraiment différent du corps électoral du Congrès. Hein. À la primaire, il y a un peu plus de 100 000 personnes qui ont participé. Au Congrès, il y a même moins de 10 000 personnes qui ont participé. Donc, c'est pas les mêmes personnes. Et on peut pas vraiment on peut pas être sûr que elle a été désavouée dans le corps électoral de la primaire. À la primaire, il y a beaucoup de gens qui sont venus voter parce qu'ils aimaient bien les écolos, ils avaient participé à la désignation, et aussi parce qu'elle avait fait une campagne de primaire dans laquelle elle était très visible. Donc non, pour moi, c'est un peu plus compliqué que ça. Ce qui est certain, c'est qu'à l'intérieur des Verts, comme organisation, donc pour les gens qui ont leur carte, eh ben, on voit bien que ce qu'elle porte ne pèse pas beaucoup plus que 10%. Donc c'est sûr que ça a dû être un peu une sorte de reality check, si on peut parler comme ça, une manière de voir, à l'intérieur du parti, pour l'instant, elle ne pèse que ça. Et d'ailleurs, il y a eu un effort qui a été fait à la fois côté Tondelier et aussi du côté de son courant, hein, le courant qu'elle portait avec Mélissa Camara, pour intégrer la direction. Donc pour avoir finalement accepté une forme de compromis et être peut-être moins dans la machine à polémique un peu permanente, ce qu'elle peut parfois donner l'impression de souhaiter.
On a vu ensemble que Sandrine Rousseau fait de la politique avec fracas et elle l'assume. Mais justement, quel est son avenir politique d'après vous ? Est-ce qu'elle a réussi à bâtir quelque chose ou au contraire, il y a eu un peu un effet soufflé ?
L'effet soufflé, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Ce qui est certain, c'est qu'elle a déjà réussi à devenir députée de la nation. Donc jusqu'en 2027, elle est députée de Paris, peut-être avant s'il y a une dissolution. Elle a par ailleurs réussi à faire entendre au mouvement écologiste qu'il fallait accélérer le rythme sur les questions qui lui sont chères, encore une fois autour des questions féministes notamment, et à structurer autour d'elle, ça revient à la question du courant, un certain nombre de personnes, d'ailleurs plutôt jeunes, qui soutiennent ses positions. Et donc en ça, si on compare à la période pré-2021 et aujourd'hui, elle a clairement réussi à structurer dans le temps, avec un peu de ressources, puisqu'encore une fois, elle est députée, elle a des assistants parlementaires, etc. Et aussi parce que son message, finalement, diffuse. Elle fait parler de ça. On parlait tout à l'heure de la polémique sur la viande, par exemple, le fait que les hommes mangeaient du barbecue, etc. Finalement, elle a réussi aussi à faire que, dans les médias, on parle à la fois du fait qu'on ait une alimentation très carnée, peut-être trop carnée, du fait qu'il y a des inégalités entre les hommes et les femmes sur qui mange de la viande et comment on en mange, etc. Donc, d'une certaine manière, elle réussit à faire que son discours et ses positions se diffusent dans le débat public, même si elle est aussi très critiquée pour ça. Hein, je veux dire, elle prend aussi beaucoup de coups, mais elle avance, finalement, elle fait avancer les sujets qui lui sont chers et elle permet du coup au débat public de se transformer.
Et elle semble un peu avoir laissé un petit traumatisme dans l'esprit de Yannick Jadot. Il y a quelques jours, il livrait encore son sentiment à l'égard de Sandrine Rousseau et c'était au micro RTL de Thomas Després.
Une formation politique, c'est pas une personne, c'est un collectif. Et il faut toujours jouer collectif. On peut travailler à ce qu'il y ait moins de prises de parole dissonantes et qui parfois met le mouvement en difficulté. Ou vous n'avez pas échappé que pendant ma campagne présidentielle, j'ai pu être parfois un peu parasité par des voix dissonantes. Je ne pense pas que ça a aidé à ce moment-là.
Marie-Bénédicte, est-ce qu'elle a des soutiens, Sandrine Rousseau, chez les écologistes? Parce que tu le disais tout à l'heure, en interne, ça passe pas toujours, et même au sein de l'Alliance de gauche, c'est compliqué.
Oui, elle a des soutiens, mais effectivement, ces ressources militantes, elles sont peut-être plus en dehors du parti que dans le parti. Hein. Les écologistes, comme tous les partis politiques, sont touchés par un phénomène, c'est que les jeunes, notamment, n'ont pas envie d'y adhérer, n'ont pas envie de militer comme on le faisait autrefois. Là, par exemple, pour le congrès des écologistes, il fallait se déplacer physiquement pour aller mettre son bulletin dans l'urne, donc parfois faire une heure, deux heures de route. Voilà. Elle touche effectivement, elle touche la société au sens les jeunes, les membres des associations. Je pense que c'est ça son terreau, mais effectivement, elle a vraiment construit quelque chose depuis deux ou trois ans, et je pense que c'est pas une personnalité éphémère, une étoile filante. On va voir ce qu'elle va en faire et on va voir ce que ça va devenir. Mais moi, je la compare souvent à Ségolène Royal, période 2005-2012, enfin la période où avant et après sa candidature à la présidentielle, où elle avait réussi à s'imposer hors parti et à imposer des idées. Et a influé quand même sur la sphère de son parti. Et Sandrine Rousseau, c'est un petit peu ça, avec son côté individualiste, elle arrive quand même à pousser des choses et à faire entrer des choses dans le débat. Et je pense que c'est quelqu'un dont on va continuer à entendre parler.
Et surtout, elle ne s'encombre pas un peu des codes du parti politique, mais il y a quand même une difficulté de taille qui se présente sous les yeux de Sandrine Rousseau. C'est cette nouvelle forme d'action militante écologiste qu'on appelle la désobéissance civile. Militant écologiste, justement, et membre du collectif Dernière Rénovation, Loïc, a raconté à Amandine Bégaud sur RTL pourquoi il s'est mis en résistance.
Vous vous retrouvez dans Europe Écologie Les Verts ou pas du tout? Ou ils sont à côté de la plaque?
J'ai pas de commentaires politiques, je suis pas politisé. Par contre, je pense que mon vote a peut-être une petite mesure peut nous aider à prévenir ce qui arrive. Après, j'ai vu justement, c'est une des choses qui m'a mis en action en début d'année, alors que j'avais encore jamais fait ce type d'action, c'est que j'étais déçu par l'impact de mon vote sur l'état de mon pays. Je pense que ça suffit pas et c'est pour ça qu'aujourd'hui je m'engage et j'invite les gens à s'engager et à nous rejoindre.
Simon Persicot, c'est compliqué pour EELV de se positionner par rapport à ce type d'activisme, d'après vous ?
C'est moins compliqué que pour Emmanuel Macron, pour les Républicains ou pour le Rassemblement National en réalité. C'est-à-dire que vous avez un mouvement social qui se développe, qui a toujours existé d'ailleurs, la désobéissance civile, les actions un peu contestataires, les occupations et tout, c'est pas nouveau dans l'histoire de l'écologie politique. De même que c'est pas nouveau qu'il y a des relations avec les Verts qui sont considérées parfois comme un peu trop institutionnelles. Et par ailleurs, vous avez un régime dans lequel, effectivement, un militant écolo un peu radical a l'impression que son vote est inutile. La Ve République, ça fait que quand même on est élu avec assez peu des pourcentages de voix au premier tour. La question, c'est dans quelle mesure ils réussissent, les écolos, à accepter des formes d'action qui sont un peu plus radicales, un peu plus désobéissantes, etc., tout en jouant le jeu des institutions d'un parti qui cherche à se faire élire et cherche à influer sur le cours des politiques publiques. Donc ce rapport à l'activisme, finalement, ce rapport un peu un pied dedans dans les institutions et un pied dans le mouvement social, ça a toujours été l'histoire des écologistes et ça l'est encore. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, je pense que Sandrine Rousseau, elle permet aussi au parti EELV de garder un peu un ancrage un peu plus fort dans ces mouvements-là, parce que elle est considérée comme une actrice qui défend clairement ces enjeux-là, et du coup les membres, les jeunes qui se mobilisent autour de toutes ces questions, ça va de la désobéissance civile sur les questions climatiques, encore une fois au mouvement pour l'extension des droits, etc., à se sentir un peu plus représentée. Donc moi je vois pas vraiment une forme de vous demander si c'était compliqué. J'ai l'impression que c'est pas beaucoup plus compliqué qu'avant. Et qu'après, la difficulté, c'est comment trouver une manière d'interagir qui fait que les deux œuvrent un peu dans le même sens, sans être dans des formes d'opposition et de division. Mais il me semble pas que ce soit vraiment le cas. Là, on disait, la personne que vous avez interrogée disait pas qu'il considérait que les Verts étaient pas du tout crédibles ou que c'était les pires du système politique. Je pense que si on leur demandait précisément pour qui il vote. Il y a de fortes chances que ce soit sans doute entre Mélenchon et ELV à vérifier, mais qu'il y a d'autres acteurs dans l'espace politique dont ils considèrent qu'ils le représentent encore moins.
Et pour se projeter un petit peu sur 2023, d'après vous, Sandrine Rousseau, elle a quoi comme défi à relever dans l'année qui va venir ?
Je pense que là, c'est un moment où il va pas y avoir vraiment d'élection. Hein, il n'y a pas d'élection en 2023 en France. Il y a une action parlementaire à mener. Encore une fois, elle est députée de Paris. Vous l'avez rappelé, ça a été rappelé aussi par l'autre intervenante. Voilà, une action parlementaire, quoi. Poser des questions au gouvernement, essayer de légiférer. Il y a une loi sur les renouvelables qui arrive. Il y a un projet de loi sur l'immigration, un projet de loi sur les retraites, etc. Donc, je pense que son enjeu, ça va être de œuvrer de manière la plus utile pour défendre l'intérêt de son parti, l'intérêt des idées qu'elle représente dans le débat parlementaire. Et puis, de continuer à construire sa personnalité, enfin, là, en tout cas, sa notoriété, sa crédibilité. Est-ce que ça passe par prolonger la dimension un peu iconoclaste qu'on a décrite depuis tout à l'heure, ou est-ce que ça passe par d'autres formes d'action? Ça, je ne saurais le dire. Mais pour moi, c'est ça, les enjeux principaux, c'est d'exercer son mandat de représentante de députés et de personnalités politiques visibles de la manière la plus efficace possible.
Et pour toi, Marie-Bénédicte, le challenge de Sandrine Rousseau en 2023, c'est quoi ?
Oui, c'est ça, c'est de continuer à exister dans le débat en se faisant accepter aussi de ses pairs au sein d'Europe Écologie, en continuant à être cette personnalité un peu à part, mais en même temps utile au collectif. Et je crois que ça, elle l'a très bien compris, parce qu'elle est très présente dans le débat parlementaire, elle intervient beaucoup, elle travaille. Et donc, elle a bien compris que son ancrage et la persistance de sa notoriété, ça passait aussi par là, ce mandat de député qu'elle a réussi à conquérir. C'était pas gagné parce que au début, c'était pas sûr qu'elle ait une investiture, et puis c'était pas sûr non plus qu'elle soit élue.
Et elle continue à cultiver donc ce côté un petit peu électron libre dans la sphère politique. Merci Simon Persicaud, merci beaucoup Marie-Bénédicte, et merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à noter et commenter cet épisode de Focus sur l'application RTL, mais aussi sur le site rtl.fr et sur toutes les plateformes de téléchargement.